Bonsoir à tous. Personne ne sera lésé, répète le ministre de l'Éducation nationale. Plus de 100 000 candidats passent aujourd'hui et demain les oraux de rattrapage du bac sur le terrain. Les parents envisagent pourtant des recours. Pas d'efficacité du plan santé-environnement, rapport sévère de l'inspection des affaires sociales. Ce plan doit pourtant permettre de mesurer l'impact de l'environnement sur notre santé. En Angleterre, on cherche qui a bien pu faire fuiter dans la presse les télégrammes de l'ambassadeur aux États-Unis. Télégrammes très embarrassants pour Londres. J'ai tellement rêvé de ce scénario. Julian Alaphilippe remporte l'étape du Tour de France à Épernay. Première victoire française avec la première arrivée sur le sol tricolore. 9 départements du sud-ouest en vigilance orange pour les orages. Les prévisions avec Météo France à la fin de ce journal.
France Inter.
Encore une situation inédite en ces derniers jours du bac, les oraux de rattrapage. 103 000 candidats qui ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne et qui vont essayer de cartonner à l'oral pour engranger les points qui leur manquent. Certains se sont présentés sans savoir si, in fine, ils avaient besoin de le faire, puisque toutes les notes n'ont pas été rentrées par les professeurs grévistes. Et quand toutes les copies auront été rendues, eh bien on prendra la meilleure des notes entre celle de l'examen et celle du contrôle continu. C'est ce qu'a défendu encore une fois le ministre de l'Éducation nationale. Chahuté à son arrivée cet après-midi à Lormont, près de Bordeaux, par quelques dizaines de manifestants avec des pancartes. 2019, le bac de l'arnaque. Mais Jean-Michel Blanquer affirme que tout le monde y trouvera son compte.
Personne n'est lésé. Certains même vont avoir, du fait de la note provisoire, une note meilleure que ce qu'ils auraient eu. Et ce que nous avons fait, c'était justement de garantir le principe d'égalité autant que possible dans des circonstances exceptionnelles. C'est quand même très étonnant que certains cherchent maintenant à trouver des arguties juridiques alors qu'ils ont fait quelque chose de juridiquement très condamnable. Et il y a d'ailleurs des sanctions pour ceux qui se sont mis en dehors du droit en cette matière. Donc on est sans arrêt en présence d'une petite minorité qui a une attitude un petit peu de pompier pyromane, c'est vous, qui met un feu, qui voit que le feu n'a pas pris et qui donc essaye d'en rajouter encore derrière. Nous avons pris évidemment des décisions juridiquement solides et je regrette que certains cherchent à créer de la confusion au détriment en réalité des élèves.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avec Laurence Méride de France Bleu Gironde. De la confusion, il y en a tout de même sur le terrain. Délibération houleuse, élèves stressés. À Montpellier, cette mère de famille ne sait plus sur quel pied danser. Sa fille passe un bac L et se retrouve au rattrapage avec une note de philo qui ne correspond pas à sa moyenne de l'année.
Sa note de philosophie est une note provisoire. Je ne sais pas de quoi elle a été tirée, puisque les dernières étaient plutôt autour de 13, etc. Donc ça fait un sacré changement. Et il s'avère qu'elle passe le rattrapage demain et peut-être qu'en fait, elle n'a pas allé au rattrapage, puisque peut-être qu'elle a le bac. Et j'ai été au lycée ce matin pour consulter ses copies et on m'a dit non, que ça se ferait plus tard. Donc le problème, c'est que demain, c'est les rattrapages et que moi, j'aurais aimé en savoir plus. Je ferai un recours parce que, bah voilà, on change les règles en cours de processus, c'est pas juste.
Et comme Muriel au micro de France Bleu Hérault, le syndicat enseignant SNALC en Occitanie affirme avoir plusieurs dizaines de recours de parents de candidats au bac. Ce matin à Montpellier, devant le rectorat, une quinzaine de correcteurs grévistes accompagnés de parents et d'enseignants ont remis leurs copies. Il se résigne après 11 ans de bataille médico-judiciaire. Les parents de Vincent Lambert ont multiplié les actions pour éviter l'arrêt des traitements de leur fils en état végétatif depuis plus de 10 ans. Ils annoncent aujourd'hui qu'ils arrêtent. Les recours suspensifs ont été vains. Depuis mercredi dernier, le médecin qui suit Vincent Lambert a engagé une procédure d'arrêt des traitements. Et cet après-midi, Sylvie Bassal, le neveu de Vincent Lambert, favorable à cette procédure, est allé lui dire adieu.
François Lambert est arrivé au CHU en milieu d'après-midi pour faire ses adieux à son oncle Vincent Lambert. Quelques heures seulement après l'annonce des parents qui ont dit se résigner à la mort programmée de leur fils, François Lambert avoue son soulagement.
C'est plutôt un soulagement et à partir du moment où on sait que le processus est irréversible, le mieux c'est que ça aille le plus vite possible.
Même si les images de Vincent Lambert sur son lit de mort sont douloureuses.
Il suffoque, il est tout blanc. On a beau se dire qu'il souffre pas, c'est vrai que c'est toujours problématique de voir un corps qui est en souffrance, qui dépérit petit à petit, qui devient de plus en plus maigre, parce que vous avez le temps de perdre du poids quand même sur une semaine, deux semaines.
Soulagement aussi pour l'équipe médicale, dit François Lambert.
C'est évidemment pas facile pour l'équipe médicale. J'imagine que l'ambiance sera meilleure si les parents de Vincent sont résignés, c'est-à-dire que forcément ça va être un peu moins de tension, c'est une très bonne chose. Chacun va être dans le recueillement et c'est une c'est plutôt une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Et donc, du coup, je pense que sur l'équipe médicale, ça la soulage aussi un petit peu, évidemment.
François Lambert dit qu'il mènera ensuite un autre combat. Il estime que la loi Leonetti sur la fin de vie n'est pas suffisante puisqu'elle n'a pas permis d'éviter 6 années de procédures administratives et judiciaires.
Sylvie Bassal de France Bleu Champagne à Reims. 120 000 euros d'amende pour La Poste. L'entreprise est condamnée pour prêt de main-d'œuvre illicite. Il y a 7 ans, un coursier employé par un sous-traitant de sa filiale était mort accidentellement, noyé en voulant récupérer un colis tombé dans l'eau alors qu'il livrait une péniche. C'était une demande de la France. Le Vatican a levé l'immunité de son nonce, son ambassadeur en France. Luigi Ventura est soupçonné d'agression sexuelle sur au moins 4 hommes. À quoi servent les plans nationaux santé-environnement? Eh bien, à pas grand-chose à en croire 2 rapports remis au gouvernement. Le plan national santé-environnement, c'est 110 mesures qui doivent, en théorie, prévenir des risques sanitaires liés à l'environnement. 110 mesures, d'accord, mais sans moyens et avec aucun impact sanitaire positif mesurable selon ces rapports, dont celui de l'IGAS, que vous avez lu. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Anaïs.
Alors que disent ces rapports?
Eh bien, ils dénoncent le faible intérêt de ce plan en vigueur pourtant depuis 2015. Il n'y a pas de pilote, pas de suivi. Ce plan n'a pas su cibler de priorité. Il n'a pas permis de réduire les risques sanitaires liés à l'environnement. À croire que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure des effets de la pollution de l'air ou de l'eau sur la santé, que ce soit sur l'amiante, le plomb, la protection des sources d'eau potable ou les pesticides, les inspecteurs estiment que les politiques publiques ne sont pas à la hauteur et surtout, selon l'un des auteurs de ces rapports, il y a un cruel manque de moyens, alors que la pollution ou la dégradation de l'environnement pourrait coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'État en soins ou en prise en charge de personnes malades. Selon l'Inspection Générale des Affaires Sociales, il n'y a pas assez de prévention pour protéger la population de risques cancérogènes ou mutagènes. Par exemple. Or, selon l'Organisation mondiale de la santé, 14% de la mortalité française est due à des causes environnementales. Il s'agit de plus de 74 000 décès par an. L'IGAS chiffre même les conséquences sanitaires de la dégradation de l'environnement à plus de 7,5% du produit intérieur brut. Autrement dit, selon ces inspecteurs, il faut passer à la vitesse supérieure. Les priorités désormais doivent être la qualité de l'air et les pesticides. Le futur plan national santé-environnement devra tenir compte de ces critiques pour être tout simplement plus crédible.
Et ces évaluations seront donc examinées demain, puisque on va réfléchir à l'élaboration du futur 4e plan santé-environnement. Ça tonne ce soir sur 9 départements du Sud-Ouest. Alerte orange aux orages en Occitanie et dans les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à minuit. Des orages parfois violents avec beaucoup de pluie, de la grêle possible et des rafales de vent importantes. Et puis tous les jours sont lot de mauvaises nouvelles après la canicule de juin. On découvre aujourd'hui que les pieds de cassis ont brûlé. Les baies noires et sucrées sont cuites, desséchées, totalement perdues en tombant au sol. La plante elle-même a souffert, 50% voire même 100% des récoltes impactées dans certaines parcelles. Conséquence, eh bien, du jamais vu non plus chez les transformateurs, les fabricants de crème de cassis de Dijon qui ne savent pas comment ils pourront encore produire leur liqueur.
Le journal de 18h. Sur France Inter.
C'est un beau caillou dans la chaussure de Theresa May à 2 semaines de son départ de Downing Street. Les télégrammes de son ambassadeur à Washington agitent le petit monde feutré de la diplomatie britannique. Il faut dire que dans ces câbles qui ont fuité dans la presse, l'ambassadeur n'y va pas de main morte pour critiquer l'allié historique Donald Trump. Il y parle d'une administration américaine inepte diplomatiquement, parle d'un président américain instable et incompétent, ce sont ses mots. À Londres, Antoine Gignot.
Pas sûr de lui, pas à sa place, maladroit. Les qualificatifs à l'égard de Donald Trump ne manquent pas. À travers ses 2 ans de notes et de correspondances, Kim Daroche, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, dresse un portrait catastrophique du président, un portrait qui contraste surtout avec la version officielle. « J'ai rencontré Trump 7 à 8 fois », disait-il l'an dernier dans une interview. « Je l'ai toujours trouvé charmant ». Plus grave, la publication de ses mémos révèle des remarques sur la politique étrangère des États-Unis, comme l'annulation de frappes aériennes en Iran à la dernière minute. Il est probable qu'il a changé d'avis par peur d'être accusé d'avoir renoncé à ses promesses de campagne de 2016 et qu'il s'inquiétait de l'impact sur les prochaines élections. Conséquence, le président des États-Unis pointe du doigt l'ambassadeur britannique et l'accuse de ne pas avoir servi correctement son pays. La première ministre, Theresa May, présente ses excuses. Elle affirme qu'une enquête a été ouverte pour trouver l'origine de la fuite. Mais dans le même temps, Jeremy Hunt, ministre des Affaires étrangères et candidat à Downing Street, déclare « Même si je ne suis pas d'accord avec tous les commentaires qui ont été faits sur Trump, il est essentiel que le personnel diplomatique puisse exprimer franchement ce qu'il pense. » Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Jusqu'où ira la crise du nucléaire iranien? L'Union européenne demande à l'Iran de cesser toutes ses activités d'enrichissement d'uranium. Téhéran a annoncé avoir commencé à enrichir ce minerai à un degré supérieur à la limite imposée par l'accord de 2015. L'Iran ne se sent plus lié après le retrait unilatéral des États-Unis. Il est arrivé avec sa femme et ses 3 enfants, a prêté serment sur la Bible en Grèce. Pas de séparation de l'Église et de l'État. Investiture officielle ce matin du nouveau premier ministre grec, Philinéas Tsipras. C'est désormais le conservateur Mitsotakis au pouvoir. Le Tour de France pose ce soir ses valises en France. Première arrivée dans l'Hexagone avec un premier maillot jaune français et une première victoire tricolore, celle de Julien Alaphilippe il y a une heure à Épernay. 215 km plutôt tranquille jusqu'aux 40 derniers kilomètres et 4 côtes courtes mais difficiles. Et c'est à 16 km de l'arrivée que le numéro 1 mondial français s'est envolé en solitaire pour cette victoire d'étape, Fabrice Rigobert.
Avant le départ du Tour de France, il avait fait de cette étape un objectif et quelque peu déçu après le temps perdu dans le contre-la-montre par équipe hier. Il savait que réaliser son rêve allait être compliqué. Mais à 27 ans, le numéro 1 mondial a été fidèle à ses principes en attaquant à 16 km du but dans les vignobles champenois sur les pentes de la côte de Mutigny pour s'isoler avant de résister au retour du peloton et signer ainsi une victoire pleine de panache à l'image de ce qu'il avait déjà montré au Grand Bornand et à Bagnères-de-Luchon, ses 2 succès il y a un an sur les routes de la Grande Boucle. Maillot à poids du dernier Tour de France, le coureur de Montluçon, vainqueur de Milan-San Remo en début de saison et de la Flèche Wallonne, est apparu ému aux larmes quelques minutes avant d'endosser la plus précieuse des tuniques, 5 ans après Tony Galopin, dernier Français à l'avoir porté. Un maillot qu'il gardera au moins jusqu'à la planche des Belles Filles après-demain. Ses 20 secondes d'avance sur le Néerlandais Kruijswijk suffiront dans l'étape de Nancy. Ce sera plus compliqué, sans être impossible, sur les terres du franc-comtois Thibaut Pinot mercredi. Pinot, l'autre Français en forme qui a franchi la ligne en 10e position ce soir. Épernay, Fabrice Rigobert, France Inter.
En tennis, Benoît Paire éliminé à Wimbledon. Le Messin Hugo Humbert affronte en ce moment Novak Djokovic. Il vient de perdre le premier set. Pas de problème en revanche pour Rafael Nadal, qualifié en quart. Ceux qui ont des ados connaissent fatalement Fairy Tail et l'univers manga. Et pour ceux qui sont déjà en manque de pop culture japonaise après la fermeture hier soir de Japan Expo à Paris, eh bien l'expérience se prolonge sur le net. Pas moins de 3 plateformes de streaming d'animation japonaise existent pour les Français, 2e consommateurs mondiaux de manga. La plus importante, Alexandra Akun, c'est ADN et vous l'avez visionné pour nous.
250 séries, 6000 épisodes à consommer en streaming ou à télécharger, en VO ou en VF, gratuit ou payant, parfois même en direct avec le Japon. Il y en a pour tous les goûts sur ADN. Benoît de Toriac en est le directeur.
One Piece, One Punch Man, Boruto, Fairy Tail, qui sont les titres très forts du moment. Après, il y a des titres un peu plus dark, sur une cible un peu plus âgée, comme Overlord en ce moment.
Sans oublier les séries diffusées en France dans les années 80-90, comme Cat Size ou Nicky Larson. On y trouve aussi des choses beaucoup plus pointues.
Mon petit coup de cœur, Konohoto Tomare, imprononçable, sur la musique traditionnelle japonaise. Parce qu'il faut savoir que de plus en plus, les jeunes Français sont intéressés à la culture japonaise. Il y a une 40aine ou 50aine de nouvelles séries qui sont faites tous les trimestres. Une partie a été travaillée en pensant au goût des étrangers.
Et les Français en la matière sont champions, les plus gros consommateurs après les Japonais.
Le temps moyen de visionnage sur la plateforme, c'est 50 heures par mois. En plus, s'ils consomment sur d'autres plateformes, le temps de consommation d'écran est juste phénoménal. Ce sont des accros à leurs écrans et ce sont des passionnés qui vont regarder quasiment tout ce qui peut exister.
D'ailleurs, un tiers des abonnés ADN sont aussi des clients Netflix. Preuve que si l'offre diffère, il peut aisément y avoir de la place pour tout le monde.
Voilà, et cette plateforme compte plus de 100 000 abonnés. Combien dans les caisses pour financer la restauration de Notre-Dame? 38 millions d'euros sur les 850 promis. L'archevêque de Paris se dit confiant, il faut du temps pour que les dons des gros donateurs arrivent effectivement. Dans un instant, la météo.
La météo, avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Les prévisions de Météo France. Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Encore des orages sur le sud-ouest.
Oui, 9 départements en vigilance orange. Les orages peuvent être forts jusque dans la nuit avec des pluies soutenues, parfois de la grêle et du vent. Demain, des orages concerneront encore les régions allant des Pyrénées au Massif central, puis vers les Alpes, avec là encore de bonnes quantités de pluie. Le littoral devrait quand même rester un peu à l'écart avec quelques ondées. En remontant vers le nord, ce sera plus calme, bien ensoleillé. Un petit vent de nord-est sensible tout de même, et puis un peu plus de nuages sur sur les Hauts-de-France.
Et un petit mot des températures, Elodie?
Seulement 8 degrés à Reims le matin, 10 à Strasbourg, 13 à Paris, mais 17 à Lyon, 19 à Bordeaux, 24 à Marseille. Et puis l'après-midi, ça baissera enfin au sud. Alors on aura souvent 25 à 31 degrés, 21 à 26 près de la Manche et sur le sud-ouest.
Merci Elodie Calac, Météo France.